Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Alors, Eugenia, dans son parcours, elle va rencontrer Guillermo, évidemment, qui va devenir son époux. Guillermo, lui, depuis qu'il est tout petit, il accompagne son père. Son père est comme un catéchiste. Il enseigne tous les dimanches le catéchisme aux enfants, aux personnes qu'il rencontre. Alors, le petit Guillermo, depuis l'âge de 4-5 ans, suit son papa. Il suit toujours le papa, puis bon, il entend toutes ces prédications-là, il est bien dans cela, bon, et le papa pendant 50 ans, il faut le faire, hein, tous les dimanches, nous disait Guillermo, papa faisait le catéchisme. C'est quand même quelque chose. Et vers l'âge de 16 ans, Guillermo a une crise. Entre 16 et 24 ans, il laisse tout tomber. Ça ne lui dit rien. Il ne suit plus le père. Il ne va plus au catéchiste. Et lui-même nous raconte que lorsqu'il était petit, vers l'âge de 10-12 ans, des fois il remplaçait son père. Alors il y a des gens, un petit peu plus jeunes que lui, qui le revoient parfois et lui disent « Eh bien, c'est toi qui m'as appris telle chose. C'est toi qui enseignais à la place de ton père. » Alors Guillermo, bon, jusqu'à l'âge de 16 ans, ça peut aller, mais de 16 à 24 ans, c'est le dérapage. Et là, il va tout laisser. Et à 24 ans, il va entreprendre un cheminement de foi. Et là, il va avancer, il va faire des études importantes en philosophie, en théologie aussi. Il va même penser devenir prêtre. Il va faire tout ce parcours. Et un jour, il discerne que ce n'est pas là que le Seigneur l'appelle. Ce n'est pas dans cet état de vie sacerdotale que le Seigneur l'appelle, mais ailleurs. Alors il va quitter ce milieu où pendant des années il sera en formation, en cheminement. Et un jour, il rencontre Eugenia, qui va devenir son épouse, et tous les deux se marient et auront ses deux fils, Guillermo et Juan. Alors, je vous le dis, on a partagé un gâteau, nous avons échangé sur nos coutumes diverses, alors ils s'informent aussi de nous. Ils sont impressionnés, bon, en tout cas intéressés à savoir qui nous sommes, ce qu'on fait, la façon de vivre ici, au Canada, au Québec. Alors, ils sont très, très intéressés à nous connaître aussi et à connaître nos cultures. Nous allons les quitter. Nous avons été heureux de passer ce temps avec eux, même si la journée était très fatigante. Nous sommes partis assez tôt, comme je vous ai dit, circuler dans Mexico. C'est une épreuve en soi, c'est tellement long, les distances et les parcours. Alors, ça a pris beaucoup de temps pour se rendre au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe. Alors, ça a pris beaucoup de temps aussi pour revenir. Nous nous sommes arrêtés dans la famille de Guillermo, notre guide. Et nous avons partagé le gâteau, nous avons rencontré les enfants. Alors, nous sommes quand même fatigués, mais nous sommes heureux. Alors, nous allons rentrer à la fraternité des prêtres qui nous reçoit. Et nous allons tout simplement, en soirée, leur raconter ce que nous avons vécu. Et ils nous écoutent avec intérêt. Et le soir, ils nous invitent à participer à la prière, à la chapelle avec eux. Alors, c'est très beau, cette prière. Ils exposent le Saint-Sacrement. Et là, il y a un temps de silence. Et ensuite, quelques prières. Ils préparent leur méditation du lendemain en lisant les textes de l'Écriture. Et ça se termine toujours par le credo. Ça m'a frappé. Leur prière du soir se termine par la récitation ensemble, en communauté, la communauté des prêtres, où ils redisent ensemble « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ. » C'est très, très touchant, c'est très beau, c'est très simple. Je pense que les choses les plus simples sont les plus belles et les plus profondes. Alors c'est ainsi que ça se termine les soirs à cette chapelle. Et là, je rentre avec mon collègue, on prend le temps d'échanger un peu, et moi, j'écris ce que je suis en train de vous raconter, parce que je dois prendre quand même quelques notes. Je n'ai pas une mémoire dans le sens où je pourrais vous raconter sur 20 jours les choses comme cela. Je pourrais en dire un peu, mais il faut que j'écrive tous les jours les lignes essentielles de ce que je dois vous offrir. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible » ou « Les sept marches de l'escalier » dont je suis l'auteur. À nouveau, Petit Jean prit une pierre et cette fois-ci, il risqua un dessin. Il fit d'abord un arc. Ensuite, des flèches, puis une cible. Après quoi, il vint s'étendre sur les bouts de bois qu'il avait rassemblés près du mur. Ce n'était pas très confortable, mais il ne pouvait rester toujours debout. Ainsi étendu, il se mit à repasser dans sa tête toutes les marches qu'il avait franchies. L'arc et les flèches cassées. Le mystère de la cible dans ses mains. Ce mystère n'en était désormais plus un. Il n'avait plus de peine à croire qu'il était lui-même devenu une cible en pensant aux gens de son village. Il se réjouit d'avoir su se dérober à leurs flèches. La petite reine rousse revint frapper à la porte de ses pensées. Où en était-elle rendue dans sa semaine royale et ses privilèges accordés à tout le monde? Ne l'avait-elle pas aidée, elle aussi, à esquiver les flèches? Il revit aussi son village dans l'eau de la rivière et le combat pour ne pas s'avouer semblable à son père qu'il n'aimait plus. Avec la colère et la crise qu'il venait de faire, il n'avait pas grand-peine à croire qu'il lui ressemblait. Un arc-en-ciel de paix apparut doucement sur l'eau qui tombait de la chute. Lentement, il s'approcha pour y voir de plus près. Comme il allait presque sortir de la grotte, la voix de la dame de la montagne retentit à nouveau en lui et le fit reculer brusquement. « Tu ne sortiras que lorsque le soleil se sera couché. » Il regagna ses petits bouts de bois et s'y assit. Sournoisement, des paroles étranges montèrent en lui. « Allons, tu peux sortir. Personne ne le saura. » Ces paroles-là ne venaient pas de Pépé Antoine. Elles n'étaient pas fausses, mais il ne les aimait pas. Il les chassait, mais elles revenaient sans cesse, semblant venir de nulle part. « Personne ne le saura. Et de l'autre côté, la chute est belle. Et puis, le temps serait moins long dehors. Ici, tu ne fais rien. Tu te rends inutile. Allons. Personne ne le saura. » Petit Jean se leva et revint tout près de l'entrée de la grotte, à quelques mètres seulement de la chute. À travers l'eau qui tombait, il cherchait à savoir où en était le temps de la journée.
Était-on en plein cœur de l'après-midi ou en fin de journée? La voix rebondit en lui.
« Tu n'as qu'à sortir, c'est si simple de savoir. »
Quelque chose d'irrésistible poussait Petit Jean dehors, mais il revint à ses bouts de bois avec la peur dans le ventre. D'où venait cette voix qui ne lui plaisait pas? Il décida de tourner le dos à la chute et de se fermer les yeux. C'est à ce moment précis qu'il se souvint de cette histoire du cœur qu'il lui fallait garder. La dame de la montagne ne lui avait-elle pas dit que le centre de la cible était son cœur? Il était donc là, cet ennemi, proche comme le serpent du rêve qui voulait manger les œufs couvés. Il avait peur et gardait les yeux fermés. « Toi, tu as vu le danger et tu es allé plus loin que la peur, » avait également dit la dame de la montagne. Ne s'était-il pas éveillé en frappant le serpent? Il ouvrit alors les yeux comme lorsqu'il s'était réveillé au bout de son rêve, puis s'approchant tout près de la chute, il dit
« Mon cœur est à moi, je le garde !»
La paix revint dans le cœur de Petit Jean, et il eut une impression de force dans cette victoire. L'obscurité se répandit complètement dans la grotte. Le soleil s'était donc couché. Il sortit vers la chute pour se retrouver sous les étoiles. Comme elles brillaient, entourées de leur nuit. Il respira profondément et trouva sur une pierre un panier de nourriture, comme elle le lui avait dit. Qui donc avait apporté la nourriture jusque-là? Il lui semblait difficile d'imaginer que ce fût la dame de la montagne. La lune se leva, lumineuse et pleine, et jeta ainsi, même à travers le voile d'eau qui tombait, un peu de lumière dans la grotte. Il regarda longtemps, puis, fatigué, il s'étendit sur ses bouts de bois pour la nuit. Les mains sur son cœur, il redit intérieurement « Mon cœur est à moi, je le garde. » Puis, il s'endormit. C'était Les Carnets du Soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.